Les années-lumière, édition du 7 février 2010. À quelques jours du rassemblement sportif planétaire de Vancouver, la science au service des athlètes. Bonjour, ici Yannick Ville de l'équipe, bienvenue à cette édition du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Une édition qui va commencer, la mine un peu basse, Sophie André Blondin, parce que le président Obama n'a vraiment pas promis la Lune aux Américains.
Au contraire, Yannick, il suggère d'oublier la Lune pour le moment, de mettre le programme Constellation aux oubliettes et de confier à l'industrie privée le soin de transporter les astronautes vers la Station spatiale internationale.
Chantal Srivastava, on a dit beaucoup de mal depuis quelques semaines du GIEC et de ses travaux sur le climat, mais il y a un mais.
Oui, parce que nombreux sont les experts qui voient là encore une opération pour discréditer, une fois de plus, la science du climat.
Nous aurons ensuite le courrier, une question sur la vision des animaux et celle des humains, puis la chronique. Hervé Fischer va nous parler du film Avatar et de ce qu'il annonce peut-être pour Hollywood. Deuxième heure, Hugues de Roussan, cette science au service des athlètes, c'est vous qui allez nous l'expliquer.
Oui Yannick, aujourd'hui il est devenu impossible de gagner sans l'aide de la science et de la technologie, surtout si on vise le premier rang au classement des médailles à Vancouver.
Et votre reportage va sortir peu avant de vous envoler vous-même pour Vancouver, où vous allez couvrir donc ces grandes festivités sportives. Et ce sera suivi, bien sûr, par l'auteur de la semaine. C'est vous, Chantal, qui le recevrez.
Le sociologue Rodolphe Christa, qui, dans son manuel de l'anti-tourisme, dénonce l'industrie du voyage, qui est, selon lui, une mauvaise affaire pour la nature.
Mais tout de suite, on ne marchera pas, enfin, pas de sitôt, sur la Lune.
The president has set out a budget that supports where we think we want to go, and we're building programs based on the budget that we have and not building programs based on a dream.
Ce rêve, donc, évoqué par le directeur de la NASA, Charlie Bolden, c'était d'aller sur la Lune en 2020. Ça avait été annoncé par George Bush en 2004, Sophie André. C'est aussi le programme Constellation avec les fusées Ares, les capsules Orion qui devaient transporter les astronautes vers la Lune. Eh bien, ces deux rêves, la Lune et le programme Constellation, sont mis de côté dans les propositions budgétaires que le président Obama a présentées pour la NASA cette semaine.
Oui, des rêves coupés, mais attention, il n'y a pas de coupure dans le budget proposé pour la NASA en 2011. En fait, on parle d'augmentation de 6 milliards sur 5 ans. Les positions présentées par la présidence américaine sont cohérentes avec certaines propositions du comité d'experts chargé de faire rapport sur la NASA. C'est un comité présidé par Norman Augustine qui avait remis son rapport à l'automne dernier. Et dans ces propositions, le transport des astronautes et du matériel vers la Station spatiale internationale passerait au secteur privé. Cette station spatiale internationale, on prolonge sa vie jusqu'en 2020 au moins, et ses équipements sont bonifiés. Mais surtout, on décrète l'abandon du programme Constellation, ce programme de lanceurs et de capsules. Le président américain demande à la NASA finalement de retourner à ses papiers, de développer et de penser à de nouvelles technologies qui permettraient à l'homme d'aller plus vite, plus loin et à moindre frais. C'est un gros contrat. Le retour à la Lune et Constellation misaient, dit-on, sur la gloire du passé avec des technologies du passé. L'analyse de Xavier Pascoe, il est chercheur associé au Space Policy Institute de l'Université George Washington.
On retournait sur la Lune avec effectivement un programme relativement similaire aux technologies qui a été utilisé dans les années 60 pour le programme Apollo. Il n'y avait pas de révolution conceptuelle dans cette partie du programme. Et de la même façon, pour aller sur Mars, on avait quand même des étapes technologiques à franchir que la Lune ne permettrait pas de solutionner. Alors, les étapes à franchir, c'est quoi? C'est d'abord, emmener des astronautes sur Mars signifie les protéger contre les rayonnements. Et au-delà de l'orbite lunaire, ces rayonnements, à certains moments du voyage, sont absolument létaux. Et donc il fallait trouver le moyen, il faut trouver, ça reste encore quelque chose sur lequel il faut travailler fondamentalement, il faut trouver le moyen de sauvegarder les équipages. Deuxième chose, il faut sans doute, dit-on pour le voyage sur Mars, prévoir du stockage de combustible, de carburant en orbite ou dans l'espace, stockage et transfert, puisqu'il faut que les vaisseaux se ravitaillent en carburant. Et là encore, c'est de la technologie de base qu'on n'a pas et que la Lune ne va pas apprendre. Et il y a beaucoup de travail à faire. Et enfin, un troisième exemple qui est souvent donné, c'est celui de l'atterrissage d'un gros véhicule sur Mars. Vous savez que Mars, contrairement à la Lune, a une petite atmosphère, assez ténue, mais une atmosphère quand même. Et il faut combiner différentes techniques, on va dire, pour faire atterrir un gros vaisseau sur Mars. Un gros vaisseau qui emmènerait des hommes. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste à l'état de théorie. Certes, la Lune aurait certainement appris, en revanche, des missions de longue durée dans des environnements hostiles, et ça, c'est important, c'est évidemment essentiel. Mais ça n'a pas été jugé, dans l'état actuel, des possibilités budgétaires, techniques, comme absolument clé.
Parce qu'il reste, justement, des inconnues technologiques. Pour l'instant, des impossibilités techniques. Oui, on réussit à envoyer plusieurs centaines de tonnes en orbite avec la Station spatiale internationale, mais ça n'est rien comparé à ce qu'il faut envoyer au-delà de l'orbite si on parle de vraies missions spatiales habitées vers la Lune, vers Mars.
Alors voilà, vous avez tout à fait raison. Pour donner un ordre d'idée, la Station spatiale internationale, aujourd'hui, c'est 350 tonnes en orbite. On a vu qu'on a mis des années pour assembler ces 350 tonnes en orbite. Eh bien, on fait le calcul que pour une mission vers Mars, et même pour la mission Constellation, on était dans des ordres de grandeur du type 600 tonnes par an en orbite. Et donc là, on passe dans des échelles de grandeur très différentes en termes de capacité de lancement lourd, très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui et de celles qui ont permis de mettre en place la station. Donc là encore, toute la stratégie de lancement est sans doute à redéfinir. Et les experts s'accordent pour dire qu'il va falloir trouver des moyens de propulsion particuliers et des capacités à construire des grandes structures qu'on n'a pas encore aujourd'hui maîtrisées.
Alors, Constellation, on met une croix dessus, on recule pour mieux réfléchir, pour mieux avancer, mieux bondir, dit-on, et en même temps, pour assurer, parce que pendant ce temps-là, la Station spatiale internationale elle continue de tourner autour de la Terre, on ouvre la porte au privé pour le transport des humains et des marchandises. Ça, c'est majeur.
Alors ça, effectivement, c'est une petite révolution. Les États-Unis expliquent qu'ils vont se reposer sur des acteurs privés pour assurer le transport des astronautes. Alors on sait qu'il y a aujourd'hui des sociétés privées qui procèdent à des lancements, mais ces lancements ont concerné des satellites, enfin du matériel, mais pas des hommes. Alors ça, c'est tout à fait nouveau. Alors en même temps, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer sur cette annonce particulière l'astuce politique aussi, qui consiste pour le président Obama à aller dans le sens d'un camp qui met en avant l'entreprise privée. Et donc, il a été, je dirais, là, dans le sens de ceux qui pensent que l'entreprise privée devrait jouer un plus grand rôle. Il se trouve que là, on va avoir du mal à critiquer le président, et y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec ses décisions. On va avoir du mal à critiquer le président d'un point de vue politique pour favoriser le secteur privé. C'est quelque chose qui était demandé. On parle beaucoup de tourisme spatial en ce moment. Et on pouvait soupçonner, au contraire, le président Obama, a priori, de vouloir renforcer le rôle de l'État. Donc là, il prend un petit peu à contre-pied tout le monde. Et c'est une astuce politique, je dirais, pour éviter de se faire critiquer.
Parlons de la Station spatiale internationale. On étend sa durée de vie et on la bonifie.
Alors, les États-Unis, ça c'est très important pour les partenaires. Pour les partenaires que sont, par exemple, le Japon ou l'Europe, on annonce le retour des États-Unis, en quelque sorte, dans le programme de Station spatiale. Vous savez qu'en 2004, lorsque George W. Bush avait indiqué ce transfert, finalement, cette réorientation de la stratégie vers le programme Constellation, l'Europe s'était émue, et pas seulement l'Europe, les partenaires internationaux des États-Unis pour le programme de station spatiale, de l'abandon par les États-Unis de la station spatiale, avec l'idée que les États-Unis s'en retiraient. Et ça avait fait une très très mauvaise impression, au sens où on avait le sentiment que les partenaires avaient le sentiment de s'être fait embarquer, en quelque sorte, si je puis dire, dans un grand programme, et puis au dernier moment, de s'être fait un peu lâcher par les États-Unis. La station perdait un peu sa raison d'être. On retrouve à la station un rôle, et ça c'est très très important pour les partenaires.
Il y a une citation qui a été dite cette semaine, quelqu'un qui a dit « On a perdu la Lune, mais on a regagné le système solaire avec ses nouvelles orientations ». Êtes-vous d'accord?
Eh bien, oui, d'une certaine manière, beaucoup de scientifiques disent que les objectifs scientifiques associés à la Lune étaient très controversés. Et beaucoup de scientifiques disent aujourd'hui il faut vraiment s'attaquer au problème martien, s'attaquer au problème de la découverte de Mars pour y installer éventuellement une installation humaine. Et donc ça va nécessiter d'envoyer de nouvelles sondes, ça va nécessiter de faire de nouvelles recherches, de faire de la science en réalité. Et en plus, Mars est un objet intéressant en soi pour ce qu'il nous apprend sur la Terre elle-même. Et donc là, on a une communauté scientifique qui se retrouve soudée, si vous voulez, derrière des objectifs en termes de géologie, en termes de climatologie, en termes d'hydrologie, alors que la Lune ne parvenait pas nécessairement, à créer cette fédération d'intérêts scientifiques.
Xavier Pascoe du Space Policy Institute de Washington est aussi chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, ça c'est à Paris. Des réactions justement, Sophie André, dans cette communauté scientifique?
Déception assurément, inquiétude surtout pour la communauté impliquée dans le programme Constellation qui doit être annulé. Si les propositions budgétaires passent, parce qu'il reste encore plusieurs semaines, il y a des oppositions, il pourrait y avoir des modifications ces propositions. Pour l'ingénieur en propulsion spatiale Richard Edman, qui préside aussi l'association Planète Mars, les propositions du président Obama sonnent rien de moins que l'abandon de l'exploration spatiale habitée.
C'est un recul. Alors effectivement, il met en avant le fait qu'on ferait mieux de d'abord développer des technologies nouvelles pour faciliter cette exploration. Mais en fait, c'est un peu faux-fuyant parce que ce qu'on aurait dû attendre d'avoir la navigation à vapeur pour explorer les océans, on l'a fait avec la navigation à voile. Que dit Bolden en matière de technologie de propulsion, par exemple. Il dit, dans sa conférence de presse, il a dit si on travaille sur les techniques de propulsion en recherche, on sera capable d'aller sur Mars en quelques semaines au lieu de quelques mois. Ce n'est pas honnête de dire ça. C'est vrai qu'on... Moi, je suis un spécialiste de propulsion, je travaille en particulier sur la propulsion avancée. C'est vrai qu'on rêve à des systèmes qui permettront d'aller beaucoup plus vite vers la Lune ou vers Mars, surtout. Mais c'est encore du rêve, ce n'est pas pour maintenant. Vous savez, entre le moment où on a commencé à penser, par exemple, à la propulsion électrique dans les laboratoires et le moment où on l'a utilisé de façon opérationnelle sur les satellites de télécommunications, comme c'est le cas aujourd'hui, il s'est écoulé 40 ans. C'est très long de mettre au point ces nouvelles techniques. Donc, est-ce qu'il faut vraiment attendre 40 ans dans la mesure où, avec les technologies qu'on maîtrise actuellement, on est tout à fait capable de faire le voyage? Ce qu'on espérait, nous, c'est que malgré tout, ils allaient continuer à travailler sur le lanceur lourd et qu'ils allaient suivre les recommandations du rapport Augustine en décidant, au lieu de la Lune, des objectifs intermédiaires moins coûteux à atteindre, comme par exemple d'aller visiter des astéroïdes, voire visiter les satellites de Mars, mais sans descendre sur Mars. Ça aurait été une première étape très intéressante.
Donc Richard Edman, qui est ingénieur en propulsion spatiale, il vient de le dire, président de l'association Planète Mars, très déçu. Autre cercle scientifique, autre réaction peut-être?
Oui, j'ai sollicité celle de Nathalie Cabrol, qui est chercheur associée à la NASA dans les programmes robotiques vers Mars. Ce sont des programmes qui voient, eux, leur budget bonifié dans les propositions d'Obama. À son avis, outre le souci de voir des collègues inquiets pour leur avenir, les collègues qui travaillent au programme Constellation, par exemple, il n'est pas mauvais de reculer pour mieux cerner les objectifs de l'exploration spatiale et pas seulement de décider de destination. Et personnellement, elle conçoit que dans le contexte économique actuel, le retour à la Lune, ça a été perçu comme un luxe.
Un luxe pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est un luxe à long terme, puisque c'est quelque chose que personnellement, c'est la raison pour laquelle je suis dans ce métier. J'ai vu des hommes atterrir sur la Lune quand j'avais 5 ans et je crois qu'il y en a beaucoup comme nous qui ont eu le virus en même temps. Et donc, c'est quelque chose dont on rêve tous, mais peut-être que parce qu'il y avait une absence de vision et de projet plus à long terme de exactement qu'est-ce qu'on veut faire avec Constellation, je crois que c'est ce qui souffre pour le moment. Je pense que quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est peut-être un mal pour un bien. Pour un bien dans la mesure où on va se dire maintenant, d'accord, comment on regarde à l'exploration humaine? Comment on pense à envoyer des hommes sur la Lune, sur Mars et plus loin? Comment on va repenser ce programme? Est-ce que la NASA doit faire ça toute seule? Est-ce que l'industrie doit y participer? Je pense que ça va être une discussion, comme une discussion qu'on a eue il y a environ 10 ans quand le programme robotique avait un problème. Et comme vous avez pu voir, il a émergé de ça un programme formidable qui aujourd'hui continue et est renforcé par le budget du gouvernement. Je pense que ce qui doit cristalliser l'exploration humaine, c'est fondamentalement une recherche scientifique à long terme. Et pas simplement dire on va sur la Lune parce qu'on doit retourner sur la Lune. Et je crois que c'est en fait ce qui nous est demandé. Donnez-nous des objectifs, un programme à long terme, redonnez-nous une vision. Et quand on aura une vision de l'exploration de la Lune, à ce moment-là, on pourra en reparler.
La planétologue Nathalie Cabrol, qui est chercheure associée à la NASA. Alors, on pourra reparler d'aller sur la Lune, dit-elle. Hein. Donc, le rêve de faire voyager des humains dans l'espace n'est pas mort avec le programme Constellation, Sophie André.
Oui, et surtout que les Américains n'ont pas le monopole du rêve. Les Chinois ont annoncé un premier homme chinois sur la Lune pour 2025. L'Inde a annoncé qu'elle se lançait dans un programme de vol habité. Les révisions budgétaires américaines vont peut-être même contribuer à réorienter les autres programmes spatiaux. On peut, par exemple, imaginer que le sursis qui est accordé à la Station spatiale internationale va permettre à des pays comme la Chine et l'Inde de se joindre aux partenaires internationaux. Et puis l'Agence spatiale canadienne, qui est déjà partenaire ici, n'a pas encore réagi, elle, au nouveau budget proposé pour la NASA cette semaine.
Merci beaucoup, Sophie André.
Merci, Yannick, et bon anniversaire.
Je vous en prie.
Louis-André Bertrand, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion en direct sur Sirius et en flux MP3. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années-Lumière avec Yannick Villedieu.
Le GIEC est dans la tourmente. Depuis quelques semaines, la série d'erreurs et d'embarras attribués au groupe d'experts sur l'évolution du climat ne cesse de s'allonger. S'agit-il de maladroite incompétence ou plutôt d'une cabale planifiée au quart de tour? Le moins qu'on puisse dire, c'est que le GIEC a fort mauvaise presse par les temps qui courent, Chantal Srivastava.
Et ce tout particulièrement en Grande-Bretagne, Yannick, où on se remet à peine de cette histoire désormais connue sous le nom de Climate Gate.
Oui.
Alors, vous rappellerez sûrement de cette histoire de courriel piraté à l'université East Anglia en novembre dernier. Le GIEC avait alors été un peu éclaboussé, mais les dégâts avaient somme toute été assez minimes. Sauf que, depuis, la crédibilité du GIEC en a pris pour son rhume. Tout d'abord avec ce qu'il est désormais convenu d'appeler le Glacier Gate.
Oui, oui.
On aime bien les gates. Hein?
Oui, oui.
Alors, une histoire qui met en cause le plus récent rapport du GIEC publié en 2007, un document, je le rappelle, de plusieurs milliers de pages, où on peut lire, entre autres, dans un paragraphe, que les glaciers de l'Himalaya pourraient disparaître en 2035 à cause du réchauffement des températures. Or, cette donnée, qui se trouve dans un paragraphe du chapitre sur l'Asie, rédigé par le groupe de travail numéro 2 sur les impacts des changements climatiques, eh bien, cette donnée, elle est erronée, parce qu'il est carrément impossible que ces immenses montagnes de glace fondent aussi
bien
vite.
Sûr.
Et cela, tout le monde s'entend là-dessus. Le GIEC a reconnu l'erreur le 20 janvier. L'information, dit-on, proviendrait d'un rapport du Fonds mondial pour la nature qui citait à son tour un article publié fin des années 90 dans l'hebdomadaire britannique New Scientist.
Et évidemment, les climato-sceptiques, les sceptiques du climat, ont fait leur chou gras de cette histoire. Et depuis, la chasse aux erreurs du GIEC est lancée.
Et ça, c'est pas une activité nouvelle. Hein. Mais depuis deux semaines, ce qui a changé, c'est que bon nombre de médias en font état, particulièrement en Grande-Bretagne, où les journaux multiplient les enquêtes. Alors, parmi les sujets qui font couler beaucoup d'encre ces temps-ci, en plus des glaciers, mentionnons entre autres l'occurrence accrue d'événements climatiques extrêmes, l'impact économique des changements climatiques, le sort des forêts en Amazonie, l'évolution du couvert de glace en montagne dans les Alpes, les Andes, et je m'arrête ici si vous le permettez.
Ah oui.
Bref, depuis l'erreur sur les glaciers, le doute est semé, Yannick, et les attaques contre les données qui viennent du GIEC se multiplient. Que faut-il penser de tout cela? Eh bien, c'est ce que j'ai demandé à Hervé Le Treut, un des collaborateurs coordonnateurs du plus récent rapport du GIEC. Il collabore avec le GIEC depuis presque 20 ans déjà. Il a supervisé la préparation du chapitre sur la mise en contexte historique de la science du climat dans le rapport de 2007. Il dirige également l'Institut Pierre-Simon Laplace à Paris.
Ce que donne le GIEC, c'est une image globale. Il faut lire les détails dans les parties, par exemple sur les événements extrêmes. Tout ce qui est cité derrière un avertissement. Dans le rapport du groupe 2, justement, d'où cette citation était extraite, la première phrase qui vient donner le contexte, son sens, c'est de commencer à dire effectivement qu'on a un recul statistique insuffisant pour ces événements extrêmes, qu'on a une grande difficulté à savoir comment ils fluctuent. On doit aussi faire une différence entre ce qui relève de l'époque actuelle. Est-ce que les événements actuels, par exemple comme Katrina, on peut les attribuer à des changements climatiques? Et puis ce qui relève du futur, est-ce que dans le futur, on a des chances d'avoir des événements extrêmes plus puissants? Donc toute cette mise en contexte de la science, c'est un des travaux essentiels du rapport. Si on l'oublie, si on critique ligne à ligne ce qui est dit en essayant de chercher des éléments qu'on sort de leur contexte, ben on fait perdre un peu son sens et son sel au rapport. Et je pense que c'est une critique qui est plus de type légaliste que vraiment de type scientifique en essayant de comprendre ce qui a été dit ou pas dans les rapports.
On critique également abondamment le fait que des extraits de rapports du Fonds mondial pour la nature ou même de Greenpeace soient cités dans le rapport en référence pour étayer certains points. Ça, c'est la fameuse question de ce qu'on appelle la littérature grise.
Oui, moi je pense que là, ce sont cités des articles qui ne sont pas des articles issus de la littérature scientifique à comité de lecture, mais ça, ce sont des fautes de procédure. Ça ne devrait pas être et ça ne devrait pas se reproduire. Je pense que ça relève un peu d'un certain laxisme qui s'explique quelquefois parce que dans certaines régions du monde, on a finalement peu de données, peu de recherches. Donc dans les panels régionaux, quand on veut savoir comment le climat change, comment les choses évoluent, il n'y a pas souvent de recherche scientifique, académique. Il y a des ONG qui sont sur le terrain et qui transmettent des informations et c'est difficile de résister à l'envie de s'en servir.
Et ça, donc, on l'a fait au GIEC. Dans certains segments, on a utilisé ce type de citation.
Effectivement, et je pense que ça correspond, je n'ai pas vérifié en détail, mais je pense que ça correspond à des régions du monde où la recherche académique est peu présente et où on a cherché les informations que l'on pouvait.
Et ça, je soupçonne que c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter de faire à l'avenir.
Oui, je pense qu'il faut, effectivement essayer de garder une méthodologie extrêmement, extrêmement claire. Je pense qu'on a suffisamment d'éléments pour dire que le climat est en train de changer, pour dire qu'il faut s'en préoccuper, pour essayer de donner même des ordres de grandeur assez robustes sur ce que ça peut représenter pour le futur, pour avoir besoin d'en rajouter, pour avoir besoin d'exagérer. Je crois qu'on doit s'en tenir à une méthodologie scientifique claire et ne pas s'en affranchir.
Quelles peuvent être les conséquences, Hervé Le Treut, de toutes ces histoires qu'on entend sur la crédibilité du GIEC?
Je pense que on l'a vu dans beaucoup d'autres débats sciences et société, l'absence d'un référent scientifique fait que les débats deviennent passionnels, s'enlisent, que les camps s'opposent de plus en plus fortement. Donc si le GIEC, qui s'est défini comme l'émanation de la communauté scientifique, est vu plutôt comme une sorte de nouvelle franc-maçonnerie, un petit club fermé, eh bien, on va aboutir à l'absence d'un diagnostic de référence par rapport à tous ces problèmes, donc à avoir effectivement une attitude extrêmement passionnelle par rapport à tous ces problèmes.
Le climatologue Hervé Le Treut est un des auteurs coordonnateurs du plus récent rapport du GIEC. Il est aussi le directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace à Paris.
Et il me disait par ailleurs, Yannick, qu'il trouve ça quand même bizarre que toutes ces histoires soient dévoilées au compte-gouttes maintenant, un peu comme s'il y avait une campagne organisée pour salir le GIEC. Cela étant dit, la science du GIEC n'est pas la seule à subir actuellement les foudres. Le président du GIEC, l'ingénieur indien Rajendra Pachauri, est lui aussi sur la sellette, entre autres dans la presse britannique, toujours elle, et sur bon nombre de carnets électroniques également, où il est accusé, entre autres, de conflit d'intérêts. On lui reproche aussi de faire des déclarations qui outrepassent son mandat, comme par exemple de faire l'éloge du végétarisme pour aider le climat. Il devrait se mêler davantage de science, dit-on. Et la cerise sur le sundae, on lui reproche même la publication récente d'un roman. Bref, les voix montent pour réclamer sa démission, même au sein de la communauté des climatologues, dont certains viennent de signer un texte dans l'hebdomadaire allemand Der Spiegel.
Et d'ailleurs, cette crise-là a traversé l'Atlantique hein, jusque ici au pays.
Oui, parce qu'on a pu lire dans les journaux d'ici que le réputé climatologue Andrew Weaver, un vétéran du GIEC qui enseigne à l'Université de Victoria, réclamait lui aussi la tête du patron du GIEC, M. Pachauri. Une nouvelle qui, compte tenu des antécédents d'Andrew Weaver, m'a beaucoup étonnée. Alors, je l'ai joint pour entendre de sa bouche ce qu'il avait à dire à cette question.
I can read the headlines now. Canadian scientists calling for resignation of Pachauri. I am not calling for his resignation.
Donc, le climatologue Andrew Weaver qui dit, je le traduis là, je lis les manchettes, un scientifique canadien demande la démission de Pachauri. « Mais je ne demande pas sa démission, dit-il. » C'est-à-dire qu'il rejoint le club des mal cités, Chantal.
Mais c'est l'impression qu'il a. Il me disait par ailleurs que bon nombre de ses collègues en font déjà partie. Un phénomène qu'Andrew Weaver s'explique tout simplement. Écoutez-le.
« The scientific community as a whole is under attack. »
La communauté scientifique dans son ensemble est la cible d'attaques de la part de groupes d'intérêt. Ce n'est pas nouveau. Tous ceux qui sont impliqués dans la science du climat depuis un certain nombre d'années font l'objet de mauvaises citations, d'erreurs d'interprétation, d'attaques, de harcèlement. C'est constant. C'est à cause, bien sûr, des intérêts qui sont en jeu. Les libertaires qui ne veulent pas que les gouvernements légifèrent pour s'attaquer au problème. Fondamentalement, c'est une décision de société. Voulons-nous, oui ou non, régler le problème du réchauffement climatique?
Cela étant dit, Yannick, je dois ajouter qu'Andrew Weaver me disait par ailleurs qu'il croit que certaines questions au sujet du fonctionnement du GIEC sont légitimes. Par exemple, selon lui, on aurait intérêt à coordonner davantage le travail fait par chacun des trois sous-groupes du GIEC pour éviter les erreurs. Il croit aussi qu'on devrait peut-être cibler davantage des thématiques plutôt que d'opter pour une approche globale. Et surtout, il me disait que lorsqu'il porte le chapeau du GIEC, eh bien, les experts, le président, tout le monde ne devrait pas faire de la politique et devrait se contenter d'informer. C'est peut-être là le principal blâme qu'il a à faire au président.
Alors, tout ça, ça montre, ça illustre à quel point, Chantal, les scientifiques, malgré eux, bien malgré eux, sont en plein dans la tourmente. Hein.
Et ce qui se passe dans ce genre de combat, le problème pour les scientifiques, c'est qu'ils luttent à armes inégales. C'est ce que déplorait cette semaine l'océanographe Louis Fortier, professeur à l'Université Laval et directeur du réseau ArcticNet.
Les scientifiques ont vraiment l'obligation qui est auto-imposée là, de vérifier chaque conclusion, chaque résultat, de s'assurer que les études, plusieurs études vont converger vers une conclusion avant d'émettre cette conclusion-là. Alors que pour les sceptiques, c'est comme autrefois les curés, hein, ils peuvent dire exactement ce qu'ils veulent, ils n'ont aucun compte à rendre, donc on peut dire n'importe quoi. Les journaux conservateurs en particulier, ils vont allègrement, attaques personnelles, attaques sur la science et tout ça. Et quand on creuse un peu, c'est vraiment navrant de voir comment ces attaques-là sont non fondées. On dénote un peu d'hystérie dans ce groupe-là, c'est-à-dire que, évidemment, les enjeux économiques là, d'une décision ferme des gouvernements de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les enjeux économiques sont gigantesques. Hein. Donc, c'est même, à mon avis, un peu étonnant que les attaques contre le GIEC ne soient pas plus fortes, plus organisées, plus puissantes que ce à quoi on assiste maintenant. Donc, c'est évidemment, c'est assez spectaculaire dans les médias à ce moment-ci. Là, on remet vraiment en question la crédibilité du GIEC. Mais quand on va un peu en profondeur, c'est tout à fait passager, je pense, comme problème.
Et si j'entends bien votre message, M. Fortier, en conclusion, on peut dire que ça ne change pas grand-chose au message global quant à la réalité du réchauffement et à ses effets.
Ça change strictement rien à la réalité du réchauffement pour les scientifiques. Et il faut se rappeler aussi que les scientifiques sont des citoyens comme les autres. On voudrait bien que notre climat demeure stable, que notre société, notre civilisation, qui est extrêmement agréable, basée sur les carburants fossiles, on aimerait bien que ça continue. Hein? Nous, on n'a aucun intérêt, si ce n'est un intérêt de citoyen, en fait, de témoigner de la crainte qu'on a que notre climat change rapidement avec des conséquences énormes sur notre civilisation et que le plus tôt on passera de carburants fossiles à des énergies renouvelables, les meilleures nos chances seront d'éviter que cette civilisation-là soit anéantie ou transformée à un point où est-ce que ça sera plus intéressant.
Louis Fortier, donc, qui est directeur du réseau ArcticNet et d'ailleurs scientifique de l'année de Radio-Canada en 2004. Cela étant dit, Chantal, est-ce que le GIEC aurait intérêt à profiter de la situation pour un petit peu faire le point sur son mode de fonctionnement, non?
Pourquoi pas, surtout qu'on est en pleine préparation du prochain rapport attendu pour 2013 ou 2014. Cela étant dit, pour remettre toute cette histoire en perspective, je me suis adressée à une observatrice de longue date du GIEC. Elle s'appelle Amy Dahan. Elle dirige le pôle recherche changement climatique, expertise et futur au Centre Coiré d'histoire des sciences et des techniques à Paris.
De mon point de vue, ce n'est pas une crise pour le GIEC. C'est un moment de haute tension politique qui n'est pas, c'est pas tout à fait un hasard que ça intervienne maintenant, autour de Copenhague, ça a commencé un peu avant. Il y a toujours eu certaines critiques du GIEC, mais là, si on cherche dans les années précédentes, il y a toujours eu des attaques. Mais là, véritablement, depuis décembre, on a une concentration d'attaques contre cet organisme. Et ça a commencé par le vol des mails à l'université d'Istanbul. Et ça a permis à l'Arabie saoudite, à la conférence de Copenhague, de commencer la conférence en disant l'expertise est à revoir à zéro, plus rien ne tient, tout ça est suspect. De fait, ça n'a pas marché. À Copenhague, le consensus sur l'existence de l'effet de serre et du changement et des changements climatiques d'origine anthropique n'a pas été contesté, à part cette tentative de l'Arabie saoudite. Tous les pays, et c'est d'ailleurs l'accord qui a marqué la fin de la conférence, est par beaucoup de points très décevant, mais il ne conteste en aucune façon l'expertise scientifique que le GIEC a menée depuis près de 20 ans.
Amy Dahan, donc historienne des sciences au CNRS à Paris, directrice du pôle de recherche Changement climatique, expertise et futur.
Et qui ne remet pas en cause, il faut le dire, Yannick, la crédibilité du GIEC, et ce malgré l'erreur sur les glaciers et tout ce qu'on dit, ce qu'on écrit par les temps qui courent au sujet du groupe d'experts.
Merci, Chantal.
Je vous en prie.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Venir en Duzémeur, la science au service du sport.
Il a fallu que je fasse des pressions, on n'en peut finir, pour que justement j'attire l'attention aux gens. Ça fait tellement longtemps que je crie équipement, 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 que les gens, à un moment donné, je pense, ont arrêté d'écouter. Je pense que mon entraîneur a commencé à comprendre le besoin, puis c'est lui qui a fait les pressions qu'on avait besoin.
C'est l'heure du courrier. Alain Ratel nous a écrit la question suivante. Pourquoi les humains ont une si mauvaise vue? Est-ce la vie moderne qui nous a rendus malades? En était-il ainsi par le passé? Les animaux semblent avoir une meilleure santé visuelle que nous. Pour lui répondre, Sophie-André Blondin a joint Christian Salès, qui est directeur de la recherche au département d'ophtalmologie de l'Université Laval.
Les humains ont quand même une très bonne vue. C'est sûr que si on compare avec, par exemple, les rapaces, bon, premièrement, n'ont pas d'odorat, donc c'est quand même un sens de moins. Mais en plus, ils voient d'une façon un peu plus précise que nous. Par exemple, ils ont deux fovéa. Alors, c'est des structures dans le fond de l'œil, la rétine, où il y a une concentration très élevée en cône. Donc, ce sont les cellules qui permettent la vision des couleurs. Et avec ces deux fovéa, ça leur permet une vision qu'on appelle stéréoscopique, donc en trois dimensions. Par contre, pour avoir cette vision en trois dimensions, ils doivent tourner la tête constamment pour être capable de faire le focus sur chacune de ces deux fovéa à des temps différents.
On parle souvent des félins et des animaux qui voient mieux que l'humain, la nuit surtout.
Oui, les félins, en fait, de façon générale, ils ont des cristallins, donc ces espèces de lentilles que dans l'œil qui lui permettent de faire le focus sur la rétine dans la région de la fovéa. Alors, ces cristallins ont des zones concentriques de différentes longueurs focales. Alors, ça leur permet de faire le point plus facilement, même s'il y a très peu de lumière. Donc, ils sont capables d'absorber plus de lumière. Puis aussi, dans le cas, par exemple, des chats, on le voit souvent, ils ont les pupilles en forme de fente. Puis ça permet, dans leur cas, d'avoir une meilleure absorption de l'ensemble des longueurs d'onde de la lumière. Et aussi le fait qu'ils ont quand même moins de cônes, plus de bâtonnets. Ils ont donc tendance à vivre beaucoup plus la nuit.
Vous parlez des cônes, Dr Salès, et les cônes, ça nous permet, nous humains, de voir des couleurs. Et ça, parfois, ça nous permet de nous consoler quand on compare notre vision et celle des animaux.
Absolument. Par exemple, je vais prendre le cas du bœuf. Le bœuf a très, très peu de cônes, puis ils sont dispersés un peu partout dans l'œil. Ils n'ont pas de système efficace pour bien voir les couleurs. Par contre, il y a d'autres animaux qui voient en couleur, qui ont deux types de cônes, donc qui voient une partie des couleurs, pas toutes. Il y a certains types d'animaux, comme des poissons, qui, eux, ont quatre types de cônes, alors que nous, on en a trois, pour qu'ils puissent voir dans l'ultraviolet. Mais l'homme voit, de façon générale, beaucoup plus en couleur que la majorité des animaux, parce qu'il y a plus de cônes qu'il y en a chez la plupart des espèces.
Notre auditeur parle de la vie moderne qui aurait pu nous rendre un peu plus malades au niveau de l'œil. Qu'est-ce qu'on sait de la santé visuelle de nos ancêtres?
Je dirais la seule raison pour laquelle ils étaient moins malades, c'est parce qu'ils vivaient moins longtemps. Et maintenant, on a des maladies liées au vieillissement au niveau de l'œil. Par exemple, une personne sur cinq, à partir de 80 ans, souffre de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Mais aussi, le nombre de maladies héréditaires a augmenté avec le temps, puisque le devenir aveugle ne tue pas, a priori. Ça mènera à la mort chez un animal, puisque ses confrères n'en prennent pas soin, mais chez l'homme, les confrères en prennent soin, puis même que ces hommes peuvent se reproduire et transmettre ces gènes défectueux, ce qui fait que l'œil est quand même l'organe où il y a le plus de maladies héréditaires dans tout le corps humain.
Si vous aviez à choisir, Dr Salès, prendre des aspects de la vision d'un animal, d'un autre et ou d'un humain, quelle vision auriez-vous?
Mais définitivement, je choisirais celle de l'humain parce qu'elle est adaptée à notre environnement. À la fois la quantité de lumière dans laquelle on vit, aux besoins de précision qu'on a. Seulement peut-être les rapaces ont une meilleure vision, mais ils doivent aussi se tourner la tête constamment. A priori, j'aurais pas trop envie de me tourner la tête constamment pour être capable de bien voir de loin.
Merci beaucoup, Christian Salès.
C'est avec plaisir.
Sophie André Blondin s'entretenait avec Christian Salès, donc qui est directeur de la recherche au département d'ophtalmologie de l'Université Laval. Quant à vous, chers auditeurs, auditrices, déjeunez-vous, sortez de vos coquilles. Posez-nous les questions qui vous chatouillent la curiosité scientifique depuis si longtemps. Vous pouvez le faire donc par téléphone de la région de Montréal. Vous faites le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays sans frais, le 1-800-752-9050. Puis toujours le courriel aussi, lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière pour terminer cette première heure avec cette semaine Hervé Fischer. Bonjour Hervé.
Bonjour Yannick.
Alors vous voulez bien sûr nous parler du sujet de l'heure, le film Avatar, une affaire qui vraiment bat tous les records. Oui. Bon, il y a peut-être deux auditeurs et demi qui ne l'ont pas vu encore. On pourrait peut-être rappeler ce dont il s'agit.
Oui, c'est un film qui est mauvais, mais à bien des égards absolument passionnant.
Fort intéressant.
Ah oui, il faut aller le voir. Bon. En deux mots, une navette américaine à 4 années-lumière de la Terre amène des soldats sur une planète qui s'appelle Pandore pour aller exploiter un minerai extraordinaire qui permettra de compenser la crise énergétique sur la Terre. Toute l'histoire se passe là, dans cette planète bleutée, entre les avatars de ces militaires et les bons sauvages, les navis qui habitent sur cette planète. Alors, c'est une fable écologique entre les bons et les méchants, les méchants américains, et on en reparlera, les bons sauvages. Mais c'est quand même un film qui fait beaucoup parler. Parce que la droite américaine est partie en fureur contre ce film, et le Vatican aussi, parce que c'est un film où il y a un marine traître qui prend parti pour les bons sauvages contre le méchant militaire.
C'est vilain.
Il y a une fable écologique, aussi faible soit-elle. On vante l'écologie, ça c'est pas bien vu non plus à droite aux États-Unis. Et puis, au fond, il y a une nature panthéiste, la mère nature, et le Vatican est monté sur son cheval blanc parce que ça va contre le monothéisme. Alors, c'est quand même il y a des débats autour de ce film qui contribuent à son succès, évidemment.
Et c'est un film, donc, en 3D, par image de synthèse, on va y revenir. Mais pourquoi en parler ici, dans une émission de science? Pourquoi?
D'abord parce que je veux en dire du mal. Pas seulement que ce film est mauvais au point de vue cinématographique, le scénario est quasiment nul, la psychologie est binaire, d'une faiblesse extrême, les clichés amoureux aussi, c'est extrêmement bien. La deuxième chose, c'est parce qu'un film de science-fiction où la science est si mal présentée, aussi à contresens des principes élémentaires de la science, ça mérite quand même d'être dit. Et je vais donner deux, trois exemples. D'abord, ce minerai, l'unobtanium, on n'en dit jamais, c'est la pierre miracle qui va remplacer le pétrole et les éoliennes, mais on n'a dit jamais en quoi, pourquoi est-ce qu'il va sauver la planète Terre de sa crise d'énergie. Ensuite de ça, parce que cette planète, à la fois, elle a une gravité plus légère que la Terre, et pourtant, il flotte en lévitation d'énormes blocs de rochers, quasiment des montagnes avec des arbres gigantesques dessus. C'est absolument à contresens de ce que j'ai appris à l'école primaire en sciences, et ce n'est jamais expliqué, même avec une théorie fantaisiste. Bon. Ensuite, parce que la nature y est présentée avec beaucoup de poésie d'ailleurs, mais comme si elle avait plus de connexions neuronales qu'un cerveau humain. Alors on voit des filaments qui se développent dans la nature, et c'est très joli visuellement, mais cette idée d'une nature qui sorte de cerveau naturel à multiples connexions, ça encore, scientifiquement, pas expliqué.
On vous dira que c'est de la fantaisie d'auteur.
Oui, mais quand même, il faudrait faire un petit semblant d'explication. Il faudrait avoir un professeur de sciences qui nous dise que c'est une planète extraordinaire qui n'obéit pas aux lois de la nature. Mm-hmm. Alors bon.
Donc une très mauvaise note en sciences.
Vraiment nulle.
Mais cela dit, c'est quand même intéressant.
Oui, c'est très intéressant.
Il faut aller le voir.
Il faut aller le voir, absolument, Yannick. Parce qu'il y a une invention de flore, de faune magnifique. Il y a des plantes absolument luxuriantes, prodigieuses. Il y a des animaux chimériques magnifiques. C'est un plaisir d'aller voir.
Oui.
Et puis aussi parce que James Cameron a inventé avec des linguistes une langue.
Donc j'espère que c'est sous-titré.
C'est vrai, c'est traduit pour qu'on puisse comprendre plus ou moins ce dont il parle. Alors, c'est quand même intéressant comme exercice.
Film d'animation, ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
C'est le point principal. C'est que ce film est prodigieux au point de vue... D'abord, il est très beau au point de vue image. Bon.
Oui.
Et il est prodigieux grâce aux images de synthèse, aux animations 3D, 3D fusion comme on l'appelle, et qui ont été réalisées dans un studio bien connu de Miramar en Nouvelle-Zélande où avait déjà été fait un King Kong et puis Le Seigneur des Anneaux, où là, il y a une capacité de création absolument faramineuse. C'est le top qu'on puisse imaginer.
Avec des moyens informatiques gigantesques.
Absolument gigantesques. Et le plaisir, pour ça je veux aussi le dire, le plaisir d'y voir des noms de Québécois qui travaillent avec Ubisoft, qui travaillent avec Hybride de Pierre Raymond, et qui ont été vraiment très très présents dans la production de ce film. Alors ça, c'est intéressant de voir que le Québec, sur ce plan, va avec l'avant de la vague dans le domaine de la création d'images.
Et cela dit, Hollywood...
Alors,
Qui fait un film en images de synthèse de 500 millions, ça peut vouloir dire quoi, Hervé?
Oui, je crois, moi qui ai pas mal réfléchi à ça et publié il n'y a pas longtemps ce livre sur le déclin de l'empire hollywoodien, pour moi, ça m'interroge. Parce que, manifestement, on peut penser qu'Hollywood a décidé de développer son industrie dans le sens du pain et du cirque.
Ça, c'est pas nouveau.
C'est pas nouveau, c'est la tradition hollywoodienne spectaculaire, mais avec le 3D. C'est-à-dire qu'on voit ce film avec des petites lunettes très légères on a une production qui évidemment est spectaculaire, qui fait des gros chiffres de billetterie et qui n'est plus piratable. Donc Hollywood...
Et ça, c'est central pour vous.
C'est central. Ça permet à Hollywood d'épouser la nouvelle vague du numérique et probablement d'abandonner le film classique traditionnel qui lui pose trop de problèmes par rapport à l'alternative numérique.
Et de faire mentir un auteur qui aurait parlé du déclin hollywoodien.
Oui, ça m'interroge. Je le reconnais. Je n'avais pas imaginé que Hollywood choisirait le 3D pour éviter la faillite.
Pour vous faire mentir, Hervé.
Ben, attendons de voir. Je suis encore très jeune. On va voir comment ça va évoluer. Mais c'est très intéressant de voir ce rebondissement. Et je crois qu'on s'en va effectivement de plus en plus vers des salles de projection de films hollywoodiens en 3D. Et il faut voir qu'aux États-Unis, 80% des gens choisissent les salles où c'est projeté en 3D.
Un petit mot en conclusion, Wikipédia.
Oui, Wikipédia donne des explications assez détaillées, intéressantes sur la flore et la faune, sur les problématiques de ce minerai et sur la gravitation de cette planète. Alors je recommande d'aller voir Wikipédia en anglais ou en français.
Hervé Fischer, je vous remercie beaucoup.
Un plaisir.
Et voilà, c'est la fin de cette première heure des Lumières. Deux secondes pour vous dire que ce soir, à la télévision de Radio-Canada, à 18h30, Découverte présente un documentaire sur la nouvelle vie de bébé mammouth, un bébé mammouth à poils laineux qui a été découvert en Sibérie. Mais pour l'instant, vous restez à la radio avec nous après les nouvelles, la deuxième heure des Lumières. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu, l'équipe, pour vous présenter ce magazine. Alors, deux sujets en deuxième heure, dont un sujet très costaud, et c'est normal parce qu'on va parler sport et sportif. Alors, à quelques jours de Vancouver, Hugues de Roussan va nous présenter un grand reportage sur la science au service des athlètes. La science qui peut faire la différence entre une place ou pas au sommet du podium, ou même tout simplement en une place ou pas sur Isselui. Et après le reportage d'Hugues de Roussan, Chantal Srivastava recevra l'auteur de la semaine. Il s'appelle Rodolphe Christin. Il a publié un livre qui s'appelle « Manuel de l'antitourisme » aux éditions Yago. Alors, les Jeux olympiques d'hiver vont se dérouler chez nous à Vancouver et à Whistler du 12 au 28 février prochain, donc à côté de ce vendredi. 2500 athlètes provenant de 80 pays vont s'affronter dans 15 sports différents. Devant les caméras du monde entier, c'est 3,5 milliards de spectateurs, dit-on. Le Canada a de grandes ambitions pour ces Jeux. Il veut terminer au premier rang du classement des médailles aux Jeux olympiques et au troisième rang aux Jeux paralympiques. Et pour y arriver, le Canada a fait appel à la science, Hugues.
Oui, pour bien comprendre cette initiative du Canada, Yannick, il faut faire un peu d'histoire. Rappelons que le Canada est le seul pays à ne pas avoir remporté de médaille d'or alors qu'il était l'hôte des Jeux. Aucune première place aux Jeux d'été de Montréal en 76.
Mais c'est normal, vous y étiez, vous n'avez pas fait de la médaille.
Je n'ai pas fait de médaille. Et aucune première place non plus aux Jeux d'hiver de 88 à Calgary. Un scénario d'ailleurs que personne ne veut voir se répéter aux Jeux de Vancouver.
Mais non.
Deuxième point, aux derniers Jeux d'hiver à Turin en 2006, le Canada a terminé au troisième rang du classement général avec 24 médailles, mais il a aussi terminé à 13 reprises en quatrième position, donc à un cheveu du podium. Et personne, Yannick, personne ne veut terminer en quatrième position. Et ça veut dire donc qu'il ne manquait pas grand-chose, et c'est ce petit écart que le Canada veut combler.
Et pour le combler, effectivement, il a décidé d'employer les grands moyens, c'est-à-dire de faire appel à la science.
Oui, Yannick, les autorités sportives canadiennes ont mis en place un programme appelé « À nous le podium ». C'est un programme qui a commencé en 2005, mais c'est vraiment après les Jeux de Turin qu'il a pris son envol. Et ce programme vise à donner aux athlètes tous les moyens possibles pour gagner à Vancouver, que ce soit au niveau entraînement, nutritionnel, psychologique, médical et même financier. Et ce programme comporte un volet particulier appelé « Top secret » et ce volet, c'est le volet scientifique. 8 millions de dollars de recherche, 17 universités et centres de recherche au pays et 55 projets différents. Tout ça pour permettre aux athlètes canadiens de rivaliser avec les meilleurs de la planète et éventuellement terminer au premier rang du classement des médailles. C'est une aventure fascinante du mariage entre le sport et la science, Yannick. Et voici ce que je vous ai préparé.
Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, J.C.J. Emerson du Canada!
Stoneham, près de Québec, une troisième place pour J.C.J. Anderson, un vétéran de l'équipe canadienne de surf des neiges. C'est sa dernière course sur le circuit de la Coupe du Monde avant les Jeux olympiques. Il a tout gagné sur la scène mondiale, ou presque. Il n'est jamais monté sur un podium olympique. Et Vancouver seront ses quatrième et derniers Jeux.
Il a fallu que je fasse des pressions, on a pu finir, pour que justement j'attire l'attention aux gens. Ça fait tellement longtemps que je crie équipement, 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 que les gens, à un moment donné, je pense, ont arrêté d'écouter. Ma tactique politique, il faut que j'avoue qu'elle n'est vraiment pas la meilleure. Ça ne m'a pas aidé. Je pense que mon entraîneur a commencé à comprendre le besoin, puis c'est lui qui avait une meilleure tactique que moi, puis c'est lui qui a fait les pressions qu'on avait besoin.
J.C.J. Anderson prend un soin jaloux de son équipement et il a participé activement à la conception d'une plaque de métal qu'on fixe entre la planche et les fixations. Résultat, moins de vibrations et une meilleure glisse. Fabriquée à Toronto, cette plaque n'aurait jamais vu le jour sans le programme Top Secret.
Le projet de la plaque, ça a été une mission. C'était la seule place où ce que je voyais qu'on avait un gros avantage puis on avait beaucoup de travail à faire. Il y avait déjà un compétiteur sur la Coupe du Monde qui était parti dans cette tangente-là, dans cette direction-là, puis il dominait complètement. On avait des bons résultats, mais je savais que j'avais besoin de quelque chose qui pouvait rivaliser sa plaque, et encore mieux, parce que c'était sur mesure, sa plaque, vraiment personnalisée. j'ai vu un potentiel qu'il fallait absolument développer, puis on a réussi à le faire au courant de l'été. Ça faisait un bout de temps que je travaillais. À ce moment-ci, ça doit faire un an et demi là, que je travaille sur ça.
La spécialité de JCJ Anderson, c'est le snowboard alpin, un slalom géant en parallèle qui se déroule en deux manches. Et même s'il connaît une mauvaise première manche, il est convaincu que cette plaque lui permettra de se rattraper au cours de la deuxième.
Une ligne plus coulante égale du temps. On a été chercher entre 1 et 2 % par descente avec la plaque seulement. Donc ça, c'est... Je veux dire, tu peux même pas acheter du temps comme ça. C'est... La pénalité dans une manche, pour nous, je crois que c'est autour de 4 %.
C'est quoi la pénalité?
La pénalité, c'est, disons, que quelqu'un tombe dans un parcours. Le plus de temps que tu peux avoir en pénalité contre toi, c'est 4 % du temps le plus vite, même si tu finis pas. Puis ça arrive régulièrement. Tu fais une faute, puis tu as le temps de pénalité qui est 4 % de la manche plus vite. Pour aller rechercher ce temps-là, il faut que l'autre fasse des erreurs, ça c'est impératif. Il faut que toi, tu ailles la manche de ta vie. Si tu as de l'équipement qui peut être plus constant, plus performant, tu peux aller rechercher ta pénalité. Tu as un avantage, comme je te dis, qui, même si, si j'utilisais des stéroïdes là, pour que je sois physiquement plus fort, plus performant, je pourrais pas aller chercher le pourcentage que je fais avec mon équipement. C'est bien mieux d'investir mon temps et mon énergie là-dedans que d'essayer de m'améliorer chimiquement. Donc, si tu as une bonne manche, puis l'autre personne a une bonne manche, tu es déjà 1 à 2 % plus vite. Ça devient même plus une question de chance. C'est sûr que tu vas détruire ton adversaire.
Enfin, sûr. Lui, s'il passe la même chose que vous, il va garder le 2 % d'écart.
Non, parce qu'il n'est pas équipé comme moi je suis.
Le champion 19! Caroline Calvé qui remporte cette manche.
Caroline Calvé, également spécialiste en snowboard alpin, en sera à ses premiers Jeux. Pour elle, la plaque, c'est plus qu'une simple amélioration technique.
Ça me permet de faire, de prendre des lignes que j'aurais peut-être pas prises avant. Quand on compare une descente quand j'ai confiance puis une descente quand je doute, il y a une grosse différence. Je vais prendre beaucoup plus de chance quand je suis confiante. Je vais prendre une ligne, comme je disais aussi, ça permet à la planche de suivre une courbe qui est naturelle à ses fonctions. Puis à ce moment-là, quand on descend, ben ça va mieux. La planche plie plus naturellement, que tandis qu'avant, si la planche plie moins bien, ben est moins capable de performer.
Le Centre national de recherche du Canada à Ottawa a joué un rôle majeur dans le programme Top Secret. Il a réalisé depuis 4 ans tous les essais en soufflerie effectués auprès des athlètes canadiens dans 11 sports différents. Guy Larose est ingénieur et c'est un spécialiste de l'aérodynamique des corps non profilés.
Et ici, on est dans la soufflerie de 2 mètres par 3 mètres du CNRC. La soufflerie, c'est un grand tube de métal dans lequel on a un ventilateur qui vient créer un écoulement d'air artificiel. Et puis, on se sert de cet écoulement d'air-là pour mesurer les forces aérodynamiques sur un corps, sur une structure, soit sur n'importe quel corps.
Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, une soufflerie aspire l'air et ne le souffle pas.
Dans ce cas ici, dans cette soufflerie-là, c'est une soufflerie où le ventilateur est en aval de la section d'essai. Alors, la soufflerie aspire l'air dans la section d'essai. C'est fait de façon à pouvoir avoir un écoulement le moins turbulent possible.
Je sais que vous avez travaillé sur la tour de Dubaï. Entre Dubaï et un skieur olympique, c'est le même combat, vous me dites?
Pas exactement. La tour de Dubaï, on cherche à caractériser les forces aérodynamiques en fonction de la hauteur. Et puis, c'est vraiment plus pour permettre aux ingénieurs d'en arriver à définir c'est quoi les forces du vent sur la structure, pour prédire ces forces-là, pour s'assurer qu'elle ne va pas s'effondrer lors d'une tempête de vent. Pour un athlète, ce n'est pas du tout la même chose. On essaie de trouver c'est quoi les forces du vent, mais on essaie de diminuer ces forces-là. Il faut les connaître, il faut bien les connaître, comprendre l'écoulement autour du corps pour en arriver à pouvoir réduire ces forces-là.
Donc, en quelque sorte, l'athlète doit trouver sa position idéale pour que le vent ait le moins d'impact et le fasse aller plus vite ou le permettre de mieux évoluer?
C'est ça. En fait, avec l'athlète, on cherche à comprendre les forces aérodynamiques qui sont appliquées et puis trouver une façon de les réduire, soit en changeant sa position, soit en l'aidant à trouver l'équipement qui va créer le moins de force aérodynamique sur son corps.
Une fois que vous mettez votre athlète ici en soufflerie, qu'est-ce qui se passe?
On demande à l'athlète, on prépare l'athlète. En fait, c'est comme s'il venait faire une course dans la soufflerie. C'est comme si la soufflerie, c'était un endroit où ils seraient en course. Alors, ils amènent leurs skis, leurs vêtements, leurs casques, leurs mitaines, même en plein été. Et puis, l'idée, c'est de leur simuler comme si c'était leur événement en se concentrant sur la partie aérodynamique. Ça fait qu'ils n'ont pas besoin de patiner, ils n'ont pas besoin de skier. Ils peuvent se concentrer sur l'aérodynamique. Nous, on leur dit quelles sont les forces qui sont appliquées sur eux, comment est-ce qu'ils pourraient faire pour les diminuer.
La grande force de ce projet, c'est d'avoir centralisé en un seul endroit tous les tests en soufflerie, ce qui permet de transférer les connaissances acquises d'un sport à l'autre quand c'est pertinent. Malgré tout, la soufflerie a ses limites. Elle ne peut pas régler tous les problèmes et il arrive parfois que l'aérodynamique et la biomécanique ne fassent pas bon ménage.
La plupart du temps, on ne peut pas changer les positions du côté biomécanique pour améliorer l'aérodynamique. Les choses qu'on peut changer, c'est peut-être la hauteur de la tête, la position des mains, la position des pieds, l'ouverture des jambes, par exemple, en skeleton. Mais on ne pourrait pas changer, en patinage de vitesse, la position des épaules, par exemple, ou la position des hanches par rapport aux jambes. Non, ça ne marcherait plus. Au départ, on croyait qu'on aurait pu faire ça. Sérieusement, au départ, on croyait qu'on aurait pu, en étudiant bien l'écoulement d'un patineur de vitesse dans une courbe, lui dire, OK, mais peut-être que ce serait mieux de tourner ta tête un peu plus ou rentrer ton épaule. Mais en travaillant avec les biomécaniciens puis les entraîneurs, la position est tellement optimisée pour aller chercher le maximum de poussée à chaque enjambée que c'est impossible de pouvoir changer cette partie-là.
Donc finalement, c'est un aller et retour constant entre l'aérodynamique et la biomécanique?
La biomécanique, oui. C'est pareil dans la plupart des sports. En ski alpin, l'entraîneur va dire que c'est toujours mieux d'avoir un bon tournant. Ne sacrifie jamais un bon tournant pour une position de recherche de vitesse. Ils sont très, très ouverts quand ils tournent. Les deux skis sont à quart, mais c'est mieux que ce soit les deux skis à quart qui soient en position de recherche de vitesse. Le mieux, c'est de faire les deux, mais ça prend vraiment beaucoup d'expérience et avoir beaucoup de confiance pour pouvoir le faire.
L'équipe nationale de patinage de vitesse courte piste s'entraîne à l'aréna Maurice Richard à Montréal. Dans le coin de la patinoire, une quinzaine de patineurs écoutent les instructions de l'entraîneur Derek Campbell.
Yeah, we're going to start with a relay, 3, 6, 9, 10. We'll do two teams of 5.
En courte piste, la sécurité, c'est primordial. Les chutes peuvent survenir à tout moment et causer de graves blessures. Pour augmenter le niveau de sécurité des patineurs, il faut les protéger contre les lames de patins qui coupent comme des rasoirs. Yves Hamelin est le directeur du programme national en courte piste.
Là où, en courte piste, on tente de faire une différence supérieure ou substantielle, c'est au niveau de la protection contre les coupures. On a à l'intérieur de notre vêtement de course actuellement, depuis un an, un vêtement où la protection est presque complète, donc le corps est protégé en entier. Ça a été ce qui nous a fait le plus mal par le passé au niveau des blessures, où ça peut être extrêmement déterminant de perdre un athlète au mauvais moment. On a travaillé avec le Centre de recherche industrielle du Québec pour mieux comprendre les matériaux anti-coupure et avec notre fournisseur d'équipement qui est Descente, de vêtements, on a intégré un nouveau matériau qui est plus résistant et on a agrandi la couverture pour mieux protéger les athlètes.
Dans cette combinaison aujourd'hui, j'ai bien compris que maintenant, il y avait du Kevlar. Et le Kevlar, c'est le matériau qu'on utilise pour les vestes antibales. Théoriquement, c'est dur, rigide et ça ne moule pas trop le corps. Sauf exception, les combinaisons moulent très bien, ce que j'ai pu voir sur la glace. Donc, comment vous faites pour associer la rigidité et la protection contre la coupure et en même temps la souplesse pour pouvoir quand même patiner à l'aise?
pour pouvoir arriver à cet état-là, ce qu'on fait, c'est qu'il faut travailler la fibre, que ce soit le Kevlar. Actuellement, nous, on travaille sur une nouvelle fibre qui s'appelle le Dyneema. Cette fibre-là, il faut trouver une façon de la tisser avec un autre tissu qui va garder une flexibilité et une élasticité. Le Kevlar actuellement a quand même présente une bonne flexibilité. Les athlètes sont confortables. Le nouveau matériel qui est plus résistant aux coupures qu'on utilise actuellement a malheureusement un peu plus de rigidité. Donc, on a besoin de continuer la recherche avec notre fournisseur qui est au Japon pour trouver d'autres matériaux pour faire en sorte que le tissage va rendre le vêtement confortable tout en donnant une protection adéquate.
Il y a d'autres moyens plus simples pour protéger les patineurs, comme par exemple remplacer les bandes rigides de la patinoire par des matelas. Il y a 3 ans, Olivier Jean a subi une grave blessure à la cheville qui a failli mettre fin à sa carrière. Après 1 an de réhabilitation et d'efforts soutenus, il est revenu au sommet. Il a retrouvé sa place dans l'équipe nationale et il ira à Vancouver.
C'est certain qu'à l'entraînement, les matelas offrent plus de liberté sur les types de dépassements, sur donner vraiment notre maximum lorsque la glace devient un peu plus dangereuse en fin d'entraînement. On n'a pas d'arrière-pensée d'avoir peur de tomber, c'est certain. J'ai subi une grave blessure en 2007 qui était directement reliée au type de bande qu'on utilisait. J'étais un peu nerveux lorsque je suis revenu à l'entraînement. Puis avec le nouveau type de matelas qu'on a, ça permet, c'est certain que ça permet de nous exprimer librement.
Est-ce qu'il a fallu que vous fassiez une chute, que vous rentriez dans un matelas pour faire partir les dernières traces de peur ou d'appréhension?
On n'a pas forcé la chute, on n'a pas créé une chute. Ça vient avec l'entraînement, on va chuter quelques fois. Donc, après avoir testé les matelas, le doute s'efface rapidement.
Est-ce que vous aviez l'impression que vous aviez besoin de cette chute pour continuer, de cette première chute de retour?
Lorsque j'étais à l'entraînement, avant d'avoir chuté, je ne croyais pas avoir besoin d'une telle chute. J'imaginais que la petite crainte allait s'effacer par elle-même, mais après avoir chuté pour la première fois, ça a été un soupir en se relevant et tout va bien, je peux chuter et me relever normalement.
We'll begin with the 500-meter competition with 5 pairs of women and then 7 pairs of men. In the women's competition,
l'ovale olympique de Calgary, c'est l'héritage des Jeux de 88. Et c'est là que s'est déroulé, fin janvier, le tournoi de qualification continentale pour les championnats du monde toute distance en patinage de vitesse longue piste. L'annonceur maison explique le déroulement de la compétition. Sur la glace, les patineurs canadiens terminent leur échauffement. Ils portent sur eux une combinaison qui est le fruit de plusieurs années de recherche. Marcel Lacroix est un des entraîneurs de l'équipe nationale du Canada.
D'après nous, c'est la meilleure combinaison présentement, la plus rapide. On a fait des tests en soufflerie à Ottawa. Ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet-là avec la compagnie Descente, une compagnie japonaise. On a fait des tests sur différents matériaux pour être capable d'identifier qu'est-ce qui nous donnait le meilleur flow, comme on dit, puis aussi au niveau de la compression. Pour que ça soit bien taillé sur mesure, tu dois avoir une certaine forme où ce que le skin va être très, très, très moulant sur l'athlète, mais en même temps, tu ne veux pas qu'il soit trop restrictif.
On m'a dit que c'était d'ailleurs une des grandes améliorations de la combinaison par rapport à Turin, ou disons qu'il y avait des plis un peu partout sur la combinaison de Turin.
Turin, disons qu'on n'avait pas le meilleur saut. Ça, c'est sûr et certain, mais on est très confiant que pour ces Jeux ici, les autres pays vont nous envier. Quand vous allez voir à la télé pendant les Jeux, vous allez voir qu'il y a des différentes couleurs sur le saut. Il y a des différents matériaux sur différentes parties du corps. Les matériaux qui sont utilisés pour le bras, par exemple, c'est un matériau qui est différent de ce qui est sur le torse. Tout simplement parce que le corps il bouge à 60 km/h, mais le bras, quand on est dans les virages, c'est un mouvement très violent. Donc, pour être capable d'avoir plus de fluidité pour les bras, pour que l'athlète soit encore plus aérodynamique, on a dû identifier quelle sorte de matériel on devrait mettre sur le bras pour être capable d'avoir plus de fluidité avec le bras.
Est-ce que c'est la même chose au niveau des jambes?
Au niveau des jambes, c'est la même chose, oui, parce qu'en patinage de vitesse, il y a un retour de jambes qui se fait. Quand la jambe pousse sur le côté, elle revient en dessous du corps. Et aux 500 mètres, c'est un mouvement qui est très, très, très violent. Donc, on a dû aussi utiliser quelque chose d'autre pour les jambes. Quand ils font des croisés, il y a un peu de friction qui se fait entre les deux cuisses. Donc, on a mis un morceau de tissu qui est très, très glissant pour les aider à avoir moins de friction entre les cuisses.
Est-ce que vous avez pu évaluer combien ça vous donnait d'avantage en termes de temps, parce que tout se joue au centième de seconde? Est-ce que vous avez pu évaluer ça?
Oui, en soufflerie, ça nous donnait, sur un 1000 mètres, je crois, si je me rappelle bien, ça nous donnait 3 dixièmes. Mais une combinaison, c'est juste un outil. L'athlète doit être capable de patiner à une façon aérodynamique pour être capable d'utiliser la combinaison à son plein potentiel. On a amené nos athlètes aussi en soufflerie à Ottawa pour travailler sur leur position aérodynamique. Un athlète qui va avoir cette combinaison-là, mais qui va patiner avec le torse relevé, qui patine un peu comme un parachute, je veux dire, ça donne absolument rien. La combinaison va avoir aucun effet.
Au-delà des combinaisons, haute technologie ou des patins dernier cri, les patineurs de vitesse longue piste utilisent pour parfaire leur entraînement un appareil unique inventé par un des entraîneurs de l'équipe nationale, Robert Tremblay. Il s'agit d'un câble de vitesse dont l'existence a été tenue secrète jusqu'à tout récemment et qui, en 3 ou 4 secondes, propulse les patineurs dans la courbe à très haute vitesse. François-Olivier Roberge est membre de l'équipe canadienne. Il s'est qualifié pour les Jeux de Vancouver dans l'épreuve du 1000 mètres.
Ça nous apporte la capacité de faire beaucoup plus d'entraînement à haute vitesse que la normale. Donc, normalement, je pourrais seulement faire quelques tours par pratique à vitesse optimale parce que ça demande beaucoup d'énergie de se rendre à 60 km/h. Mais le câble de vitesse nous amène à cette vitesse-là sans effort. Donc, on peut pratiquer les virages à haute vitesse, on peut pratiquer le patin de haute vitesse sans arrêt un peu, parce que c'est pas épuisant.
Est-ce que vous faites ça uniquement pour savoir pour atteindre les vitesses maximum, ou vous en servez également pour polir vos styles, améliorer s'il y a des choses à justement améliorer?
Oui, en fait, c'est la combinaison des deux. C'est améliorer notre technique à vitesse maximum. Parce que patiner, disons, à 80% de notre vitesse, c'est bien beau, mais il faut réussir à le faire à 100%. Donc, le câble de vitesse nous permet de pratiquer notre vitesse à la vitesse optimale plus souvent dans la même pratique.
Est-ce que ça vous donne... vous sentez l'amélioration? Est-ce que vous avez pu déjà traduire ça en gain d'un dixième, deux dixièmes, même une demi-seconde sur une longue distance?
Mais c'est dur à dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte quand on regarde un temps final. Mais je dois dire que je me sens beaucoup plus à l'aise à haute vitesse que je me sentais auparavant. C'est probablement le fait que j'en ai fait beaucoup plus cet été. Je suis arrivé à Calgary parce qu'à Calgary, la glace est extrêmement rapide. Et puis je suis arrivé ici cet automne avec la confiance que j'avais jamais trouvée auparavant. Ici, j'étais toujours un peu sur les talons parce que je trouvais que la vitesse était très élevée. Mais là, cet été, j'ai fait des tours à cette vitesse-là constamment. Donc c'est surtout pour la confiance, je crois. Cet été, au lieu d'avoir fait, disons, une centaine de virages à haute vitesse, j'en ai peut-être fait 10 fois plus. Donc, c'est pour ça que la confiance entre à mesure d'en faire, c'est ça.
Justine Lheureux n'a pas réussi à se qualifier pour les Jeux, mais pour elle, ce n'est que partie remise. Elle s'entraîne avec l'équipe nationale de développement à Calgary. Elle aussi, elle a goûté à la médecine du câble de vitesse.
En gros, ça peut être bénéfique, ça peut apporter... des points positifs, des bons aspects. On peut pratiquer des qualités qu'on peut acquérir plus facilement. Mais pour dire des dixièmes, oui, ça pourrait. Mais je pense que ça dépend de l'utilisation qui en est faite aussi. Donc, je pense que si on l'utilise trop, ça peut être néfaste puisque à un moment donné, tu ne veux pas devenir dépendant de ça parce que tu veux être capable de créer ta propre vitesse, comme dans une course quand on va être sa ligne de départ à 0 km/h. Donc, je pense qu'il y a une balance à faire, mais si c'est bien utilisé avec un certain équilibre, je pense que ça pourrait être très bénéfique.
À l'Université de Calgary, on a mis au point un GPS appelé le STELT, un acronyme anglais qui signifie « senseur pour l'entraînement des athlètes d'élite ». Il s'agit d'un petit appareil d'une précision inouïe. Il permet de prendre des mesures 20 fois par seconde, de connaître à 5 cm près la position d'un skieur qui dévale une pente à plus de 120 km/h et de déterminer son temps de parcours à un millième de seconde près. Il a fallu 3 ans de recherche pour mettre au point ce GPS, le seul du genre au monde. Gérard Lachapelle est professeur à l'École d'ingénierie Schulich de l'Université de Calgary.
Nous avons commencé le développement à l'automne 2006. Alors, on a conçu à partir de zéro, en fin de compte, une première boîte. Elle pesait quelques 400 grammes. Et on s'est aperçu que c'était un peu trop lourd pour les skieurs. Alors, on a fait un redesign de la boîte et on l'a descendu à 250 grammes avec une autonomie d'utilisation de 6 à 8 heures sur la pente avec des températures qui vont jusqu'à moins 20 heures. Mais on a fait des améliorations aussi. Alors, parce qu'au début, on utilisait seulement le système GPS. Mais il y a un an, afin de pouvoir améliorer le rendement du senseur, nous avons également augmenté le système avec le système russe, le système GLONASS. Alors, le système GLONASS, c'est un système, en fin de compte, là, grosso modo, qui est comparable plus ou moins au GPS. Alors, en utilisant les deux systèmes simultanément, ça permet d'obtenir des performances qui sont vraiment encore plus grandes et d'améliorer aussi le temps d'opération.
Donnez-moi une description du senseur et comment ça fonctionne.
Notre senseur se porte à la ceinture, à l'arrière du skieur. Donc, ça n'a aucune interruption du mouvement du skieur lorsque le skieur descend la pente. Et il existe une antenne qu'on met, une antenne très légère, qu'on met sur le casque du skieur et qui est reliée au senseur avec un fil assez mince. Le senseur enregistre toutes sortes de données assez complexes. Et après la descente, les données sont descendues sur un ordinateur et sont traitées avec des logiciels très précis et représentées de façon à ce que les entraîneurs et les skieurs peuvent voir très clairement ce qu'ils ont fait lors de la descente en fonction de la raideur de la pente, en fonction de le rayon de courbure, et ainsi de suite. Lorsque les skieurs font plusieurs descentes, ils peuvent comparer les descentes l'une à l'autre, donc voir ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils ont mal fait lors des descentes. Ils peuvent également se comparer entre eux. Ça permet vraiment aux entraîneurs, pour chaque skieur, de bien déterminer leurs points forts et leurs points faibles et d'essayer naturellement d'améliorer les points faibles des skieurs de façon peut-être à améliorer de 10 minutes en total d'une fraction de seconde, puisque les courses sont gagnées ou perdues à plus ou moins quelques centièmes de seconde souvent.
Est-ce que ça veut dire qu'avec ce senseur-là, on arrive, après plusieurs descentes, à trouver la ligne parfaite, celle qui fait perdre le moins de temps, ou est-ce qu'on arrive à trouver la meilleure position pour le skieur?
En fin de compte, ce sont les deux, parce que les pentes sont très irrégulières. Alors, dépendamment des attributs des skieurs individuels, alors on peut voir des choses différentes. Alors, c'est là où les entraîneurs, avec toute leur expérience, peuvent vraiment juger quelles sont les meilleures façons de procéder pour chaque skieur. Alors, en comparant tous les éléments, qu'il y en a plusieurs, eh bien, on peut finalement en arriver avec une méthode de plus ou moins optimale pour chaque skieur individuel.
La ville de Sorel-Tracy, au Québec, accueille cette année les championnats canadiens juniors de curling. Dans les estrades de l'Aréna Cardin, Guy Hemmings surveille le déroulement de la journée. Il s'est rendu 2 fois en finale des championnats canadiens seniors sans jamais réussir à le gagner. Ici à Sorel-Tracy, il est bien entendu trop vieux pour jouer. Mais il n'est pas un simple spectateur. C'est lui qui est le président du comité organisateur du championnat. Ce qu'il voit devant lui sur la glace a bien changé depuis l'époque où il a lancé ses premières pierres.
L'utilisation des ordinateurs, des caméras, toute l'analyse, la compréhension totale du mécanisme, la position idéale pour venir au bout d'effectuer le lancer a beaucoup évolué. On se remonte à une vingtaine d'années, les joueurs de curling étaient des joueurs qui jouaient au curling, se contentaient de pratiquer beaucoup, de faire beaucoup de lancers. Et on sait que c'est un sport de mémoire musculaire, un peu comme le golf. On venait à bout de maîtriser une certaine technique. Aujourd'hui, la technique est décortiquée par les entraîneurs, par les différents programmes à travers le Canada, pour arriver à dire, oui, cette position-là, oui, tu performes dans cette situation-là, mais si tu appliquais cette technique-là, ça pourrait être plus utile. Autrement dit, on dit aux athlètes, oui, tu performes bien, mais à quel coût?
Et avec la technique aujourd'hui, on peut vraiment décortiquer, examiner dixième de seconde par dixième de seconde le mouvement du joueur pour le corriger.
Oui, on a copié les premières choses qui ont été faites, c'est de copier un peu ce qui se faisait au golf, qui est une industrie peut-être un petit peu plus riche que le curling. On a pris le même modèle vidéo, on peut séparer par image, on peut placer l'axe, on peut montrer à l'aide d'une image à un joueur de quel axe qu'on parle, à quel point son axe, il peut désaxer, s'il n'est pas directement derrière la pièce, si sa main n'est pas assez haute. Donc l'utilisation du vidéo et le programme utilisé en golf nous a vraiment permis de travailler avec les athlètes et de leur démontrer visuellement l'importance de chacune des positions et où est-ce qu'il y avait peut-être une petite faiblesse dans leur glissade et on peut les ramener plus facilement avec ça.
Est-ce que le programme a pu être appliqué tel quel ou il a fallu le modifier pour les besoins spécifiques du curling?
On l'a modifié. Au début, on l'utilisait de façon générale, mais après ça, il a été modifié par l'Association canadienne et ses nombreux entraîneurs de la Fédération mondiale qui ont su apporter des modifications pour le rendre plus apte au curling. Mais l'idée de base était sensiblement la même. Comprendre un mouvement, pouvoir le séparer en fragments, en images, en axes et pouvoir le montrer exactement aux athlètes.
Cette approche technologique a été poussée encore un cran plus loin au centre de curling Sayville de l'Université de l'Alberta à Edmonton. Grâce au financement du programme Top Secret, le biomécanicien Pierre Baudin et son équipe ont installé et font fonctionner un système muni de 8 caméras vidéo, de 12 caméras pour le mouvement et d'un laser pour analyser la trajectoire des pierres. Ce système ultra sophistiqué permet d'étudier image par image et en trois dimensions la motion effectuée par un joueur. Dans le silence du centre perturbé seulement par le bruit de la surfaceuse, Pierre Baudin regarde sur l'écran de l'ordinateur devant lui, sans jamais se lasser, la technique de Kevin Martin, le skip de l'équipe canadienne.
Curling is a very subtle sport, and at that level, the differences between winning and losing are literally millimeters.
Le curling est un sport tout en finesse. La différence entre gagner et perdre, c'est une question de millimètres. Au début de notre recherche, on a pu constater qu'il n'y avait pas de problème majeur biomécanique à corriger chez les bons joueurs. Les changements qu'il fallait apporter étaient donc subtils. Mais pour faire ce genre de changement, il faut un système sophistiqué. Les entraîneurs en sont incapables à l'œil nu. Ils pensent qu'ils en sont capables, mais ils ne le sont pas. Ils ont été surpris de constater que ce qu'ils pensaient ne correspondait pas forcément à la réalité. C'est très éducatif. Cela a permis aux joueurs d'être plus conscients de la position de leur corps. Est-ce que cela a fait une grosse différence? Peut-être pas. Mais est-ce que cela va les aider et leur donner ce petit plus qui leur permettra de gagner une médaille d'or aux Olympiques? Je le souhaite vivement.
Help them to make that final little step towards the gold medal. I hope so.
Et aux Jeux de Vancouver, le Canada en curling ne s'attend à rien de moins que 2 médailles d'or, une chez les femmes et une chez les hommes. Les Jeux paralympiques se dérouleront 12 jours après la fin des Jeux olympiques et le Canada vise une 3e place au classement des médailles. À l'Université de Sherbrooke, une équipe de chercheurs a présenté un projet dans le cadre du programme Top Secret pour améliorer l'équipement des paraskieurs alpins. C'est le seat ski, un siège monté sur un ski dans lequel s'installent les paraskieurs. Les modèles existants manquaient de stabilité, particulièrement dans les virages serrés. Ève Langelier est professeure au département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke.
Quand on part avec l'équipement d'un site skieur, le site skieur a un ski seulement, qui est un ski standard, avec une fixation standard, dans laquelle donc vient s'asseoir à la base une pièce qui remplace la botte et sur laquelle est assis un mécanisme. Sur ce mécanisme-là vient s'asseoir le skieur, donc c'est dans un siège. Chaque côté, il va avoir des bâtons équipés de skis au bout pour l'aider à garder sa position au besoin, l'aider aussi lors du départ. Quand on a fait les skis, l'objectif, c'était à la base de répliquer au meilleur du possible un skieur debout. Il y a une grande différence entre un skieur et un skieur debout. Le skieur debout peut amener de l'énergie avec ses muscles, il peut gérer le mouvement en hauteur, alors que le skieur est dépendant de sa suspension et du mécanisme qui est en dessous de lui. Il ne peut pas injecter d'énergie comme on le fait avec des muscles. C'est composé d'un mécanisme qui assure une certaine flexion pour pouvoir suivre le parcours, sous laquelle il y a une suspension pour absorber les coups. On a fait un sit-ski qui était beaucoup plus direct, agile. Comme une voiture de course versus une voiture... Dans le fond, on l'a rendu beaucoup plus sensible. Les athlètes n'ont qu'à faire un petit mouvement pour pouvoir le guider.
Donc, petit mouvement avec un grand impact au bout.
Exactement. Pour eux, c'est une adaptation, parce qu'avant de faire des plus grands mouvements pour réussir à faire la même chose, mais maintenant, juste des petits mouvements, donc ils sont capables de se rattraper plus rapidement, c'est plus direct, la conduite est justement plus stable, plus directe.
La technologie et la science ont parfois leurs limites et elles n'arrivent pas toujours à grignoter les quelques centièmes de seconde qui manquent à un athlète pour se qualifier pour les Jeux olympiques ou encore pour monter sur le podium. Le patineur de vitesse longue piste, François-Olivier Roberge.
Aux sélections olympiques, je me suis classé par 3 centièmes, puis pour une fois, je m'étais rasé, donc... Je vais refaire la même chose à Vancouver. Je ne peux pas risquer de perdre quelques centièmes.
C'était un reportage d'Hugues de Roussan. Hugues qui quitte les Allumières pour quelques semaines, justement pour aller couvrir les Jeux à Vancouver.
Dominique Lapointe, le réalisateur des Années-Lumière. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous laisser vos questions de science. De Montréal, vous composez le 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région métropolitaine, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050, 752-9050. Et soyez patient, une bonne question trouve toujours une bonne réponse.
Alors, vous rêvez peut-être, et c'est le moment de l'année où ça arrive en général, vous rêvez peut-être de vacances dans le sud, sur une belle plage ensoleillée. Eh bien, l'auteur que nous accueillons cette semaine va vous faire déchanter. Il s'appelle Rodolphe Christin, il est sociologue, il vient de publier le livre « Manuel de l'antitourisme » aux éditions Éco-Société. Dans son livre, Rodolphe Christin dénonce l'industrie du tourisme, une industrie qui, selon lui, est devenue une très mauvaise aventure pour la nature. À l'invitation de Chantal Srivastava, Rodolphe Christin s'est rendu dans les studios de France Bleu à Grenoble. Il nous explique tout d'abord à quel point cette industrie du tourisme est aujourd'hui développée.
Le tourisme est la première activité économique mondiale. Donc quand je parle de tourisme, ce n'est pas seulement la vente de voyages, c'est aussi la vente d'hébergement, la vente de restauration, la vente de tickets de transport, bien évidemment. C'est une industrie qui emploie 200 millions de personnes dans le monde, donc c'est à peu près 8% de la population mondiale, et qui a rapporté 733 milliards de dollars américains en 2006, ce qui est un chiffre d'affaires assez conséquent.
Sur une base quotidienne, on peut parler de 2 milliards de recettes par jour, ce qui est quand même pas négligeable.
Tout à fait. Mais en même temps, et c'est intéressant de le souligner, il y a seulement 3,5% de personnes dans le monde qui peut prétendre au statut de touriste, c'est-à-dire de voyageur pour le plaisir, je dirais. Donc c'est une infime partie de la population mondiale. Alors j'ajoute une précision, quand je dis 3,5% de la population mondiale, ce sont les gens qui passent une frontière. C'est-à-dire, ce ne sont pas les Français qui visitent la France, ce ne
ou
sont
les
pas
Canadiens,
les Canadiens
qui voyagent au Canada.
Qui voyagent au Canada. Ce sont les gens qui passent une frontière. C'est important aussi de le souligner parce que ce sont ces gens-là que l'industrie touristique essaie de faire partir de plus en plus loin et de moins en moins longtemps. Tout le développement d'industrie touristique consiste à amener les gens à aller le plus loin possible.
Et justement, on offre, par les temps qui courent, pour nous, pauvres Nord-Américains qui grelottons de froid en cet hiver très, très rude parfois, on nous offre des séjours de 3 à 4 jours pour aller se faire dorer au soleil. Et c'est justement contre ces pratiques que vous en avez. J'aimerais peut-être dire, Rodolphe Christin, que ce que vous voulez faire, c'est vraiment nous amener à réfléchir sur les impacts de nos pratiques comme touristes, comme voyageurs sur la planète tout entière. Et là, ces impacts-là sont vraiment à des niveaux multiples. On peut penser tout d'abord, ou bien sûr, aux impacts environnementaux qui vous inquiètent.
Tout à fait. Le développement du tourisme repose sur l'utilisation d'un moyen de déplacement qui est l'avion, qui est extrêmement polluant. Ensuite, on est de plus en plus entré dans une logique de consommation du voyage. Je dis souvent, au départ, le tourisme était lié au voyage, en tout cas au voyage en tant que pratique de loisir. Et puis, je suis de plus en plus convaincu que le tourisme est en train de devenir un anti-voyage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme du séjour comme on consomme un paquet de cacahuètes. C'est-à-dire qu'on achète très vite des séjours pour 2 ou 3 jours à l'autre bout du monde. C'est souvent le prix qui fait que la décision est prise. On sait à peine où l'on va. On sait qu'on va être pris en charge complètement pendant ces 3 jours. Et finalement, on n'est plus du tout dans une logique de découverte, mais dans une logique de consommation complète. C'est-à-dire que le voyage est devenu, dans ce cadre-là, un acte commercial. J'ai presque envie de dire exclusivement un acte commercial.
Une fois sur le terrain, rendu à destination, vous vous désolez de la façon dont parfois on développe à outrance des infrastructures qui, encore là, ont un impact environnemental vraiment dévastateur. Et vous citez entre autres, Rodolphe Christin, l'exemple des forêts de mangroves en Asie du Sud-Est et de ce qu'on a appris lors du tsunami.
Bien, le tsunami, effectivement, nous a appris qu'en détruisant les mangroves donc sur le rivage du Sud-Est asiatique, pour y implanter souvent des hôtels ou des infrastructures touristiques, on a finalement détruit une zone qui servait de tampon entre la mer et la terre et qui permettait de briser les vagues lorsqu'elles arrivaient. Et finalement, avec ce développement d'industrie touristique, ce qui a brisé les vagues, ça a été les infrastructures humaines avec beaucoup de gens à l'intérieur. Et ça a contribué à rendre ce désastre extrêmement important et donc à faire un nombre de victimes considérable. Donc là, on est bien dans le cadre où un espace naturel a été remplacé par un espace humain, mais un endroit où finalement on aurait peut-être dû réfléchir avant et se dire que si les habitants du coin construisaient un peu à l'intérieur des terres et allaient pas se mettre directement en bordure de rivage, il y avait peut-être des raisons. Mais on pourrait multiplier les exemples. Par exemple, la première région touristique du monde, à savoir le bassin méditerranéen, le problème est actuellement le suivant. Un touriste en période estivale consomme indirectement en moyenne 300 litres d'eau par jour.
Le tourisme, énorme.
Ce qui est énorme. Dans des régions où il n'y a pas d'eau, enfin en tout cas où il y a peu d'eau.
Alors là, on fait référence à l'eau dont ils s'abreuvent, l'eau pour se laver, l'eau des piscines, l'eau des cuisines et ainsi de suite.
L'eau des terrains de golf, l'eau de... C'est une consommation indirecte. Donc ce n'est pas seulement l'eau qu'on boit, c'est l'eau avec laquelle on se douche, c'est l'eau dont on a besoin pour maintenir un terrain de golf ultra vert dans un climat qui est ultra sec. Tout cela a des incidences considérables, effectivement, sur l'environnement.
Donc, 300 litres d'eau par personne, on peut soupçonner qu'il y a conflit d'usage, M. Christin.
Et en plus, effectivement, il y a des conflits d'usage parce que l'eau sert au tourisme, mais les agriculteurs en ont besoin. Donc, on est pour une lutte, je dirais, pour une ressource qui est rare et qui crée des conflits, effectivement, entre les différents opérateurs qui en ont besoin pour développer leur activité.
Et ce qui est très ironique, et vous le soulignez dans le manuel de l'anti-tourisme que vous venez de publier chez Éco-Société, Rodolphe Christin, c'est qu'on nous présente également de nouvelles manières de voyager, comme par exemple le tourisme ou le voyageur qui veut découvrir le terroir. Or, quand on parle de conflits d'usage pour des agriculteurs, il y a quand même quelque chose d'un peu étrange. On veut aller les voir, consommer leurs produits, mais ils ont de la misère à survivre parce qu'on débarque.
Disons que c'est un peu ambigu, parce qu'effectivement, le tourisme, notamment ce qu'on appelle le tourisme vert, mais qui ne marche pas très bien, contrairement à ce qui a été souhaité au départ, le tourisme vert a permis à des agriculteurs, à des niveaux très locaux, de diversifier leurs revenus. Et je dirais, c'est pas forcément... un mal. Seulement, tout est une question d'échelle. Lorsqu'il y a un peu trop de monde qui, par exemple, vont utiliser l'eau des piscines dans des endroits extrêmement secs, Moi, j'ai le cas sur un site en France qui est en Ardèche, où l'été, par exemple, les éleveurs de moutons et les propriétaires de gîtes entrent régulièrement en conflit, tout simplement parce que pour remplir les piscines, on va puiser l'eau, et cette eau-là manque pour les bêtes qui en ont besoin pour s'abreuver, évidemment. Donc on est dans des logiques, finalement, où le touriste qui veut se rapprocher du local est en même temps une source de conflit. C'est tout le paradoxe aujourd'hui du développement touristique, effectivement.
Est-ce qu'on peut faire du tourisme durable?
Alors, je me méfie de cette expression de tourisme durable parce qu'il y a un effet de mode aujourd'hui sur le développement durable, sur le tourisme équitable. Parce que je crois que cet effet de mode correspond aussi à une mauvaise conscience. On rencontre de plus en plus de gens qui sont un peu frustrés de leur voyage et qui rentrent un peu déçus et qui développent une forme de mauvaise conscience. Et le tourisme durable et responsable vient servir de justification en disant oui, bon, bah, je suis parti d'accord, mais je suis parti dans une structure qui fait du tourisme équitable, donc tout est bien et ma pratique est justifiée. Moi, je pense que le tourisme durable et le tourisme équitable font partie du problème. Ils ne sont pas la solution du problème, ils font partie du problème. Et le problème, à mon avis, c'est le suivant. Comment se fait-il que nos conditions de vie soient devenues si invivables que nous ayons besoin de cette façon-là, de partir au loin pour oublier à un moment donné notre vie quotidienne? À mon avis, le problème, il est là aujourd'hui.
Mais est-ce qu'avec la mondialisation, on n'est pas aussi intéressé à aller voir ce qui se passe ailleurs?
On est intéressé à aller voir ce qui se passe ailleurs, mais est-ce que le tourisme aujourd'hui est basé sur la découverte? Moi, je crois qu'aujourd'hui, le tourisme est basé sur le divertissement. C'est-à-dire qu'on arrive dans une logique qui est une logique de parc, de création de zones retranchées justement de la vie quotidienne des gens qu'on est censé visiter. Et ces parcs fonctionnent, je dirais, en circuit fermé. C'est ce que j'appelle une mise en organisation touristique qui fait qu'un touriste, finalement, quand il arrive dans un pays, il va prendre un chemin qui est un chemin touristique qui va croiser le chemin des gens du lieu et qui ne sera pas le chemin des gens du lieu. Il sera extrêmement difficile de sortir de cette mise en organisation du voyage. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est aussi de se dire que finalement, on n'a peut-être pas besoin de partir très loin pour commencer à voyager et que la découverte oblige à prendre un certain degré de risque, peut-être, mais de risque, je ne parle pas seulement de risque physique, je parle de risque peut-être intellectuel, de risque qui sont ceux de la découverte et du choc culturel. Et je crois qu'on peut découvrir le monde aussi en allant voir des endroits où il n'y a rien à voir, justement.
Par ailleurs, M. Christin, vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs vantent le tourisme comme étant un levier de développement. On dit qu'avec le tourisme, on développe des infrastructures, qu'on met à contribution la science, l'ingénierie, les techniques. Il y a vraiment absolument rien à tirer de tout cela pour une collectivité où on développe le tourisme?
Il y a sans doute des choses à tirer. Après, il faut réfléchir sur la répartition des revenus qui ne sont pas forcément aussi bien répartis qu'on ne le dit. Et ensuite, moi, à la limite, mon problème, c'est plus de mettre en avant la forme d'illusion que le tourisme entretient. C'est-à-dire que je crois que le tourisme est devenu un anti-voyage. Donc, je développe un manuel de l'anti-tourisme, comme vous l'avez dit, de manière à redonner au voyage son sens. Et je pense que l'idéologie du développement a conduit à ce que j'appelle le management du monde, c'est-à-dire la mise en production de tous les territoires. Et que cette mise en production du territoire est aussi une mise en organisation, une mise en commercialisation de la prestation touristique. On parle beaucoup d'hospitalité, mais l'hospitalité au départ, elle était gratuite. Et aujourd'hui, l'hospitalité est devenue marchande. C'est aussi tout ce processus de marchandisation du voyage que je critique, en disant qu'il y a sans doute des manières de faire autrement. Aujourd'hui, se développe quand même de manière assez alternative, notamment quelque chose qui est assez développé ici, qui s'appelle les systèmes d'échange locaux, où on peut, je dirais, faire un espèce de troc. C'est-à-dire, vous pouvez venir chez moi, et puis moi, je viendrai chez vous. Et
ça me prête mon sofa.
Voilà. Et ça me semble finalement un moyen assez intéressant de rencontrer du monde, sans avoir forcément à toujours passer par une prestation.
Comment on réconcilie votre point de vue, M. Christin? Plusieurs des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent doivent se dire « Mais comment je vais faire pour voyager de manière responsable? Je veux aller découvrir le monde, je veux fouler des sols inexplorés, escalader des montagnes, découvrir de superbes paysages, mais je me sens coupable maintenant de le faire. » Comment on réconcilie tout ça?
Ça peut être tout simplement aussi une réflexion. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller dans des territoires vierges? Moi, je ne suis pas le père fouettard du voyage. Si les gens veulent voyager, qu'ils voyagent, je pense qu'au bout d'un moment, ils se rendront compte de certaines choses. Moi, j'écris ce livre-là pour tout simplement essayer de pointer des contradictions qui fait qu'effectivement, plus on part nombreux en Antarctique, voir des espaces vierges, par définition, moins ces espaces sont vierges. Voilà. Et finalement, il y a une espèce de frustration organisée qui est qu'on part de plus en plus loin, voir des lieux où il n'y a plus personne. Et plus on part loin, voir des lieux où il n'y a personne, plus il y a du monde dans ces lieux-là. Donc plus il faut aller toujours plus loin. Et tout ça, moi, la question que je me pose, c'est essayer de remonter à l'origine de ce désir-là. Pourquoi a-t-on besoin toujours de partir au loin pour s'oublier et pour oublier ses semblables? Moi, je me dis que peut-être on est arrivé à des conditions de vie qui sont finalement pas très réjouissantes et qui poussent les gens à partir, à fuir, je dirais. Moi, c'est plus cette interrogation-là qui est une interrogation philosophique, mais sans élitisme, parce que je crois qu'on a tous une capacité de réflexion tout le monde a cette capacité de réflexion-là. Mais je pense qu'il faut voyager parce que simplement, il faut le faire avec un esprit un peu critique, sans forcément culpabiliser, tout simplement en se posant la question de savoir pourquoi on fait les choses.
Et de peut-être réfléchir à comment on les fait également.
Tout à fait.
Mais Rodolphe Christin, je vous remercie infiniment pour cette interview.
C'est moi qui vous remercie.
Et je rappelle que vous êtes sociologue et que vous venez de publier ici au Canada donc le manuel de l'antitourisme. C'est paru chez Éco-Société. Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Et là, voilà, c'est la fin de cette édition des Années-Lumière, une émission signée Dominique Lapointe, avec à la technique Michel Potvin, les journalistes Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan et Chantal Srivastava, au site internet Louis-André Bertrand, chroniqueur, Hervé Fischer. Je vous rappelle un tout petit mot là pour vous dire que, aux 30 ans et moins en tout cas, que vous pouvez participer au concours de la bourse Fernand Seguin. C'est vraiment une très, très belle bourse. Mettez-vous au travail, je vous y invite fortement. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Je vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de Radio-Canada. Et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.